entendez là. Moi, je vous vois bien. L'avantage, nous sommes un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais d'un autre côté, ça, c'est un avantage, c'est qu'on se voit bien. Hein. On peut poser les regards sur les uns et sur les autres. Il y en a un qui voit tout, qu'on soit 10, 50, 100 ou 3000. C'est notre Dieu. Jean-Luc a choisi un texte qui m'a réjoui, parce que, comme ça a été redit dans les prières, on a ce privilège d'avoir la parole de Dieu à disposition, et on peut y accéder librement, la manger, la méditer, la mâcher, la remâcher. Et il a posé le fondement, hein, ce texte qui nous a pris, le fondement de notre foi. Et ce matin, je voulais aborder avec vous, vous savez que j'aime bien le bâtiment, donc je vais parler un peu de rocher, de pierre, de pierre particulière, une pierre angulaire, parce que je pense qu'on est dans un environnement. Alors, ce que je vais dire peut paraître une banalité, néanmoins, c'est quand même, je sais, la vie de beaucoup. Quand j'étais au travail, on avait dit à un moment, le changement dans ce monde devient une donnée. Vous savez, une donnée, c'est quelque chose qui est fixe. Eh bien, le changement devient une donnée, c'est-à-dire qu'en fait, tout change tout le temps. Fut un temps où une évolution technologique, on mettait 20 ans pour la digérer, c'était bien, on avait le temps. Et aujourd'hui, il y en a 10 000 par jour qui impactent très rapidement toutes les vies. Je vois des jeunes, beaucoup. L'informatique est un domaine qui consomme, c'est un peu violent là, ce que je dis, mais qui consomme les ressources de notre jeunesse. Là, je les vois, ils sont brillants. J'ai fait ça pendant 18 ans. Faites attention, ça peut nous manger. Hein, voilà. Parce qu'on veut tout automatiser, on veut aller très très vite, on veut gagner du monde, donc on automatise, etc. etc. Le changement devient une donnée, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale aussi, bien souvent, dans la consommation, tout va très vite. Et nous sommes assaillis de toutes parts par des nécessités qui semblent incontournables. Il faut choisir, il faut décider, et puis c'est maintenant, hein, parce que tout est très très interactif, pas question de se poser, on n'a pas le temps. Hein, et il faut décider, dans un contexte qui est, on ne peut plus incertain. Hein. Tout est pourtant tracé, la traçabilité va de bout en bout, et pourtant, de temps en temps, un gars qui nettoie un poulailler, pas comme il faut, et c'est le bazar dans l'Europe entière. Les constructions extrêmement sophistiquées de l'homme, et j'y ai participé, et nous y participons, et je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais voilà ce qui se passe. Je ne parle pas, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, il y avait un petit volcan en Islande qui avait vapoté, hein, puisqu'on dit ça maintenant, il avait craché un peu de fumée, la moitié du trafic aérien européen, au moins, était stoppée. On a une centrale atomique, la mer se déchaîne quelque peu, elle renverse des digues qui font 7, 8, 10 mètres, c'est la catastrophe. On oublie vite, je vous rappelle, parce qu'on oublie très vite, il y en a tellement eu d'autres depuis, mais l'homme, sûr de lui-même, commente doctement, nous n'avions pas fait les rambardes assez haut, nous allons les faire un peu plus haut, et ça ira mieux. Ben voyons. La vie chrétienne, au milieu de cela, ne semble pas aller de soi. Surtout que beaucoup de courants aussi nous invitent à rejoindre ce monde pour le sauver, avec beaucoup d'ambiguïté sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. Au milieu de cela, nous avons besoin de reconnaître et de connaître ce qui est stable et ce sur quoi on peut s'appuyer. La Bible dit attention de ne pas s'appuyer sur un roseau cassé, ça blesse, ou sur un mur qui menace de s'écrouler, dans lequel d'ailleurs il y a des serpents. C'est ainsi qu'est venue la pensée du rocher. C'est vraiment une pensée qui me touche beaucoup, la pensée du rocher. Alors, je ne sais pas ce qu'elle évoque pour vous. Le rocher, ça peut évoquer la solidité, mais la dureté. Ça peut évoquer le repère, mais l'immobilité, le fondement, la permanence, la hauteur, l'élévation, le sommet. Alors nous allons regarder un petit peu tout cela. Cette expression du rocher, elle est largement utilisée spécialement dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises. Vraiment, il y a, je crois, une quarantaine d'expressions, plutôt dans l'Ancien Testament. Nous verrons, nous parlerons de pierre après, de pierre au sens fondement, une pierre détachée de ce rocher, dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup ce terme. Et ce rocher, le Nouveau Testament va nous rappeler par la bouche de Paul que ce rocher, c'est Christ. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 3, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, qui ont tous été sous la nuée, » il parle du peuple hébreu, « qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Donc je peux, parce que je ne veux pas m'aventurer dans des rapprochements approximatifs, m'appuyant sur la parole de Paul, je peux déclarer que lorsqu'on parle du rocher dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel, mon rocher, mon refuge, ma haute retraite, j'y reviendrai, mais c'est bien Christ qui est là annoncé. Dans les psaumes, alors on va lire plusieurs passages, mais par exemple dans le psaume 73, le psalmiste Asaph parle du rocher. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer » au verset 26, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Dieu est donc un rocher déjà au sens d'une élévation au-dessus de tout, et il est un fondement solide et stable. Deutéronome 32, le verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Et Moïse ajoute, « S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. » Il nous est rappelé aussi que ses voies et ses pensées sont au-dessus de nos voies. C'est le premier point si évident que j'aurais souligné ce matin et pourtant si souvent négligé. Dieu est le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il est le créateur de tout et c'est lui qui tient tout. Cela a été rappelé à Job pour mettre fin à la lutte que Job conduisait, je ne veux pas dire contre Dieu, mais à la fin c'était quand même un peu contre Dieu, pour démontrer à Dieu qu'il était juste. Et en Job 38, nous allons lire ce passage. Je crois que j'aurai au début de ce message que ces choses soient bien posées dans nos cœurs, sinon on s'égare. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, je vous rappelle que Job vit des épreuves inouïes. Je ne veux pas les rappeler là, mais c'est inouï. Il est démuni de tout, il a tout perdu, y compris la santé, il a une espèce de la peau abîmée, était-ce un cancer, on ne sait pas, en tout cas il se gratte avec des tessons de bouteille, enfin c'est quand même l'horreur ce qu'il vit. Mais il ne lâche pas quand même, et il dit, j'irai plaider avec Dieu et je lui montrerai que je suis juste. À un moment, Dieu intervient, je fais très rapide, c'est un livre merveilleux. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint tes reins, attache tes reins comme un vaillant homme. » Les reins, c'est le lieu de la force. « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Et ou qui en a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Retenez ce terme, la pierre angulaire, on y reviendra. C'est un terme prophétique aussi pour nous parler de Jésus. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Oui, Dieu est le seul Dieu, c'est lui qui pose les limites, c'est lui qui donne les règles, qui fixe les règles, y compris à la mer, et on sait combien la mer que nous avons proche de chez nous peut être violente, destructrice, et néanmoins, des limites lui ont été posées. C'est le Dieu d'éternité qui fait cela. Il est stable. C'est un Dieu stable. Jacques nous rappelle qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. C'est un rocher spirituel et éternel, il est le rocher des siècles. Première pensée, Dieu, il est tout puissant, il a toute autorité. Toute autorité. Puissions-nous cesser de perdre du temps, bien souvent à faire comme Job, à lui opposer nos pensées, nos raisonnements, parfois nos apitoiements. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Mais pouvons-nous nous tenir un instant et dire, Seigneur, je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Et j'abandonne mes luttes et mes combats. Je crois qu'il faut qu'on le fasse, sinon on ne peut pas entendre la suite. Et c'est important de savoir qu'il est ce Tout-Puissant. Parce qu'il est aussi, et parce qu'il est le Tout-Puissant, et parce qu'il est le rocher, il est un rocher refuge, asile, protecteur, forteresse. En effet, cette solidité et cette élévation met en protection celui qui se cache en lui. Il y a des creux protecteurs dans ce rocher, dans ce Dieu si immense, des creux dans lesquels il est prêt à nous recueillir, à nous accueillir, à nous mettre à l'abri. Exode 33, verset 22, c'est ce passage où Moïse veut voir la face de Dieu. Il a vu de grandes choses, il a vu la puissance de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Nous pouvons être cachés en Dieu, cachés avec Christ en Dieu. Le psaume 71 encore, je ne les citerai pas tous parce que vous trouveriez particulièrement dans l'Ancien Testament, je pense que le peuple avait une conscience de la puissance de Dieu. Peut-être parce que nous sommes dans les temps de la grâce, parce que nous connaissons le message de l'Évangile, peut-être par moment, perdons-nous un peu, voire beaucoup, la crainte de Dieu. Il est grâce, il est grâce. Mais pour faire grâce, il faut avoir de la puissance. Le pouvoir de gracier, il est donné, il était donné au roi, il est donné dans certaines circonstances au président, à une haute, très haute autorité. Donc pour comprendre et bien vivre et demeurer dans la grâce de Dieu, il nous faut comprendre cette autorité qu'on a besoin de se réfugier en lui. Le psaume 71, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Continue pas le psaume, vous pourriez le faire. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Des passages nous soulignent aussi que c'est un rocher au milieu de la mer. Et la mer dans l'Ancien Testament, c'est souvent la mer des nations, la mer des peuples, des tribus, de toutes langues. La mer de ces tribus et de ces nations qui, dans leur ensemble, marchent sans Dieu. Il est dit heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, mais si peu de nations, pour ne pas dire aucune, ne marchent avec Dieu. La plupart des peuples et des nations marchent selon leur propre voie. Et Dieu voit les nations et leur tumulte, et il se rit d'eux et de leur révolte dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Nous vivons au milieu de ces nations, nous vivons, et c'est ce que je rappelais en introduction, au milieu de ces constructions humaines, qu'elles soient politiques, sociales, sociétales, humanistes de tout bord, mais des constructions faites souvent sans Dieu. Une construction faite sans Dieu, j'y reviendrai, c'est une construction qui s'oppose à Dieu. Le type en est Babel, mais Dieu est un rocher au milieu. Il voit tout ce qui se passe. Il est au-dessus, et notre refuge est là. Non pas, encore une fois, pour regarder de haut, c'est pas cela, nous. Mais il est important que nous ayons cette position assis avec Christ dans les lieux célestes, lui le rocher. De ce rocher, l'Ancien Testament nous parle de trois choses qui sortent de ce rocher. L'eau, le miel et l'huile. En Exode 17, au verset 6, en Exode 17, au verset 6, verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. C'est cette eau qui désaltère l'âme desséchée au bout de son errance. Cette eau-là, elle sort du rocher. Le miel et l'huile aussi en Deutéronome 32. Deutéronome 32. Je vais lire les versets 9 à 18. C'est dans le Cantique de Moïse. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré de soins, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis avec sa graisse des agneaux, etc. Il a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Au sein de ce qui peut apparaître un désert des circonstances terribles, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir pas simplement à l'eau indispensable pour la vie, mais encore il peut, au sein des détresses, au sein des situations qu'on ne comprend plus, donner une onction particulière, une révélation particulière, ça c'est l'huile, et une douceur, le miel. Au sein des plus grandes détresses, des situations où on ne comprend plus rien, il est le rocher d'où sortent toutes ces choses. Je vais m'arrêter là sur l'Éternel, le rocher, pour considérer une pierre particulière qui est sortie de ce rocher. Et c'est le texte, entre autres le texte que nous a donné Jean-Luc, le Christ, fils du Dieu vivant, venu en chair. Voilà la pierre, vous le savez, que Jésus, que suite à la confession de Pierre, Jésus a répondu à Pierre. Alors on va lire ça dans Matthieu 16, au verset 15. Jésus demande à ses disciples, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point comme elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du rocher des siècles. Et c'est sur cette pierre, ce roc, sur cette déclaration, sur cette réalité spirituelle, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, comme ça a été rappelé, est venu. Nous verrons tout à l'heure une pierre qui s'est détachée de la montagne. Mais déjà là, du sommet de la montagne, du sommet de l'Éternel, le rocher des siècles, une partie est descendue au milieu des hommes pour les racheter, pour les sauver. Et tout est contenu dans cette phrase, tu es le Christ, l'envoyé, celui qui a été oint, celui qui a été choisi pour accomplir l'œuvre, mourir à la croix, pour le pardon des péchés, mais qui est vivant parce qu'il est ressuscité. Voilà le rocher, voilà la pierre, et c'est une pierre particulière. C'est pas un hasard que Jésus ait dit sur cette pierre, tu es Pierre, jeu de mots, mais sur cette pierre, sur cette partie du rocher de l'Éternel, le Dieu d'éternité, sur cette réalité spirituelle, je, Jésus-Christ, bâtirai mon Église. C'est la pierre, une pierre particulière, c'est la pierre angulaire, la pierre, ce Fils par qui la vérité et la grâce sont venues, va constituer le fondement de l'Église. C'est donc une pierre particulière, la pierre angulaire annoncée par les prophètes. Dans Ésaïe 28 au verset 14, ceci nous est annoncé. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture et non pas de la fausseté une règle, et de la justice et non pas de l'iniquité un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Faux refuge que la fausseté, faux refuge que le mensonge, un jour il est, balayé. Deux pensées me viennent. Vous savez, il y avait une affaire terrible qui ressort régulièrement, qui est ressortie, cette affaire du petit Grégory, qui a été tué. Quelque chose qui dure depuis 35 ans. Que de morts autour de cette affaire, parce que le mensonge, la fausseté, les choses dissimulées. Cela nous parle. La loi a été donnée par Moïse, Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est la lumière, il est ce rocher, le fondement. Dans Éphésiens, dans les armes spirituelles, je vous rappelle que la première arme dont nous devons être vêtus, c'est la vérité. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il traîne des choses, il y a des morts. La mort continue son œuvre. La vérité la stoppe. La mort, ce n'est pas forcément la mort physique, mais il y a toutes sortes de morts. Je me rappelle dans une entreprise où je travaillais, j'arrivais dans cette entreprise. Et puis, j'avais la responsabilité d'une partie du réseau sur la Bretagne. Et moi, j'aime bien rencontrer les gens. Donc, j'ai pris, pas mon bâton de pèlerin, mais ma voiture. Et puis, j'ai visité et j'ai rencontré un à un 200 personnes, mes 200 collaborateurs. Un à un. La direction centrale voyait ça d'un mauvais œil. Moi, c'était ma façon de faire. Je trouvais que c'était important qu'on puisse se connaître, se parler. Effectivement, j'ai vu pourquoi il y avait un problème. C'était un réseau commercial tenu dans ces milieux très, très humanistes, très purs, qui ne se souillent pas avec l'argent, qui était considéré le réseau commercial comme ça sent pas bon. Et ce réseau commercial était écœuré, désabusé. Ils avaient entendu un tas de discours, de nouveaux projets, de choses. Sauf qu'il y avait eu des mensonges, je te dis, beaucoup de mensonges. Je vais vous en citer un seul. Un jour, il y avait une convention, vous savez, il n'y a pas que chez les évangéliques, il y a des conventions. Il y avait une convention avec tout le personnel pour mobiliser, pour motiver. On appelle ça, vous savez, permettez cette expression, des grands messes. Et pendant ce... quelqu'un avait osé poser une question, des rumeurs courent qu'il y aurait des difficultés dans l'entreprise, etc. Balayé d'un revers de main. Tout va très bien. Ils étaient propriétaires de la FNAC, nous garderons la FNAC, c'est un fleuron de l'entreprise. Le lendemain, dans la presse, était annoncé que la FNAC était vendue. Comment voulez-vous que des gens soient encouragés? Le mensonge. Vous pouvez passer derrière. Hein. Vous pouvez raconter ce que vous voulez derrière. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous pouvez ramer pendant un paquet de temps. La flatterie et le mensonge. Après, il faut ramer. Il disait, soyons des témoins. Soyons des témoins. Des témoins authentiques, véritables. On n'aura peut-être pas la grande gloire, on ne sera peut-être pas reconnu. Et ça, on le sait quand on est vrai. J'ai lu ce passage dans Ésaïe 28, 14. Dieu déclare qu'il a mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Ce passage est bien sûr prophétique, il s'agit bien de Jésus-Christ qui a annoncé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Si le mensonge est venu s'installer dans nos vies, il y a une solution. C'est tout simplement de venir à la lumière. Il est parlé de la pierre angulaire. Il s'agit de la toute première pierre posée sur un édifice. Son importance est capitale car de sa position va dépendre toute la construction de l'édifice. Alors, j'ai parlé peut-être déjà une fois de pierre angulaire. Peut-être vous ne savez pas trop, vous ne représentez pas trop ce que c'est une pierre angulaire. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments sont faits avec du béton armé. Il y a au moins des solides fondations normalement, des pieux. Mais il faut savoir que, au temps de Jésus et encore, nous avons dans nos contrées des maisons qui sont bâties, soit en pierre, soit en terre. Mais même les maisons bâties en terre, la plupart ont au moins une très grosse pierre qui fait souvent 80 cm sur 50, sur 60 de haut. Pierre qu'on ne peut pas soulever, un seul homme. Et qui est posée à l'angle de l'édifice. Et c'est la première qui est posée. Avant de la poser, on creuse. On fait des fondements, on met bien de niveau, et on vient poser, même sans ciment. Mais cette pierre, elle a un poids. C'est une pierre vraiment solide. Parce qu'elle va supporter, elle va avoir plusieurs fonctions, et qu'on va voir un peu. Elle va donner, elle est taillée à angle droit souvent, la plupart du temps. Elle est orthogonale, ortho ça veut dire droit, hein, qui est bien dressé, qui est à la verticale, qui est à l'aplomb. Hein. Et elle va donner toute l'orientation du bâtiment, à la fois son exposition à la lumière ou pas, pour telle façade, et aussi son alignement vertical. Il n'y a pas dans cette pierre, il ne faut pas qu'il y ait dans cette pierre de faille, de fissure. Jésus est la pierre angulaire, il va dire au moment d'aller à la croix, le prince du monde vient, il n'a rien en moi, aucune fissure en Jésus-Christ. Et pourtant, c'est une pierre éprouvée. À Gethsémané, il y a eu une pression. Pression sur Jésus. Vous savez que Gethsémané, c'est le pressoir, le jardin du pressoir. Et pour sortir de l'huile à partir d'olive, il faut presser fort. Encore plus que pour sortir du vin à partir du raisin. Il faut vraiment que ce soit écrasé. Jésus, il est cette pierre angulaire, parce qu'il a réussi avec succès ce test de la pression. Son corps lui-même a sorti du sang tellement la pression intérieure était forte. C'est une pierre éprouvée, d'une solidité à toute épreuve. Elle est angulaire, je le rappelais, elle donne toutes les orientations de l'édifice. Et les pierres posées à côté vont devoir s'ajuster à cette pierre. Elles vont devoir s'ajuster. Cette pierre assure le chaînage. Vous savez que il nous est rappelé que notre foi repose sur l'enseignement, sur les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ est celui qui fait la liaison entre les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, annonçant celui qui allait venir et son œuvre, et les apôtres, qui après que Jésus eut tout accompli, ont reçu la révélation, la signification, à la fois de tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament et de tout le sens de ce que Jésus a accompli. Il est la liaison entre ceux qui étaient au loin, celui qui était auprès, le peuple hébreu qui a reçu la révélation, les alliances, etc., et nous qui étions au loin. Il a cette pierre angulaire à tout réconcilier, en un seul. Et cela par la croix. Vous noterez que sur ces trois dimensions, il y en a deux horizontales qui sont la base. La justice et l'équité sont la base de son trône, je reviens souvent. Et puis, la verticalité, donc, à la fois vers Dieu, mais n'oublions pas que Jésus-Christ est aussi celui qui a été dans les profondeurs, qui détient désormais les clés du séjour des morts. Cette pierre angulaire, elle est solidement posée. Notre foi ne repose pas sur des fables habilement conçues, mais sur la résurrection attestée de Jésus-Christ. Elle est posée de niveau, nous dit le texte d'Ésaïe. Elle n'est pas bancale. Elle est sur une justice divine, comprenant la mort de Christ à notre place. Prix payé à la fois pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que le péché soit jugé et que le prix du rachat soit acquitté, pour que nous appartenions désormais à Dieu. Justice et équité, je disais, sont la base de cette pierre angulaire. La pierre angulaire étant posée, nous sommes invités à nous intégrer à cet édifice en tant que pierre vivante. Pour cela, la justice et la vérité doivent être accueillies, acceptées. J'ajouterai recherchées. Parce qu'il est évident que quand on vient à Christ, nous avons été éclairés, nous avons été illuminés, c'est évident. Nous étions dans les ténèbres, nous avons été éclairés, illuminés. Je voudrais nous encourager ce matin à ne pas en rester là. Il y a des zones de ténèbres dans nos vies que nous ne soupçonnons pas. Si déjà on considère que à peu près tout ce que l'on voit chez nos frères et sœurs, qui nous paraissent évidents comme n'allant pas, si nous le voyons, c'est que déjà nous sommes concernés. Et je ne parle pas de ce que nous ne voyons pas. Nous sommes donc invités à nous joindre à cet édifice. Nous ne pouvons nous y joindre que sur la base des orientations données par la pierre angulaire. Pierre nous invite, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté à ce miel qui sort du rocher peut-être, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, puisque nous avons reçu sa vie, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Celui qui croit en elle, oui, car il est dit dans l'Écriture, Pierre rappelle ce verset d'Ésaïe, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. » C'est un autre aspect, les fondements posés par ce que nous ont annoncé les prophètes, accomplis par Jésus-Christ, et ce que nous ont révélé, la compréhension révélée par les apôtres, ne changera pas. Elle est complète. Il n'y a rien à ajouter. Et si nous ne recevons pas cela, si nous essayons d'ajouter, d'inventer autre chose, cette pierre angulaire, fondement solide de la maison de Dieu, nous nous heurterons dessus. N'oublions pas cela. Ne acceptons ce qui est posé par Jésus-Christ. Acceptons sa justice. Nous avons besoin, c'est vrai, souvent de patience. Même ses promesses peuvent être une cause de chute pour nous. Parce que des fois, nous attendons et ça ne vient pas. Nous attendons et ça ne vient pas. Je voudrais qu'on soit encouragé. Sa parole est certaine. Si elle tarde, attends-la. Mes frères et sœurs, des fois, on a du mal. Parce que c'est dur, des fois. Parce que c'est si dur d'attendre. C'est si dur d'attendre peut-être un conjoint. C'est si dur d'attendre peut-être une guérison. Peut-être on attend celle du corps. Peut-être le Seigneur a des choses à guérir dans notre cœur. Peut-être. Alors, c'est si dur d'attendre. Mais nous avons une solide espérance. Oui, qu'ils reviennent, oui, que nous serons toujours avec vous, mais dès ici-bas, je crois. Dès ici-bas, je crois. Continuons d'espérer, parce que ça manifestera sa gloire quand ce sera venu. Je crois que chacun, chacune, nous avons peut-être des plaies, des choses secrètes, mais nous avons une espérance. Peut-être on a été déçus parce qu'on n'a pas attendu. Et peut-être qu'aujourd'hui, on s'est dit, si j'avais attendu, parce qu'on a compris après qu'il aurait fallu attendre. Je veux vous dire ce matin que ce n'est pas fini. Ce livre de méditation, j'aime bien tout pour qu'il règne, dit je crois au 31 décembre, il y a peut-être des choses où tu as loupé. Parce que par l'incrédulité, par l'impatience, on n'a pas pris la bonne route. Tu laisses reposer ça maintenant. Dieu a des choses en réserve pour toi. Dieu a des choses en réserve pour toi. C'est Jean-Luc qui dit souvent, c'est spécialiste du plan A, B, C, D, E, F, et il peut continuer. Ce n'est pas un encouragement à la légèreté. C'est dire qu'il y a une espérance pour chacun ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne nous révoltons pas. Ne nous révoltons pas. Nous sommes un corps, partageons, soyons vrais. Oui, c'est pas encore arrivé, ce que j'attends. Une réconciliation. Un pardon peut-être que j'attends, j'estime avoir droit. Il y a d'autres élévations, il y a d'autres hauteurs, il y a d'autres rochers dans ce monde. Mais je voudrais lire un texte dans Jérémie 51. verset 26, je vais lire un peu avant, mais il est de nouveau question des pierres angulaires. Et ça confirme qu'il y a une seule pierre angulaire, les autres n'en sont pas. Jérémie 51, à partir du verset 20, c'est une parole de Dieu à l'encontre de Babylone, où Dieu a décidé, c'est lui qui a décidé, de déporter son peuple. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a décidé. Oui, Dieu a amené un jugement sur son peuple dans cette déportation à Babylone. Mais pour autant que Babylone ne se croit pas avoir dominé le peuple de Dieu. Et Dieu dit ceci, Babylone, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus, par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. C'est un passage extrêmement sévère de la parole, mais qui, pour nous, nous invite à ne pas nous confier dans les choses de ce monde, dans les systèmes aussi sophistiqués soient-ils. Pour autant, je le rappelle, nous avons à y vivre, mais nous n'avons pas à nous placer notre confiance dans tous les ismes qui fleurissent depuis deux siècles maintenant, que ce soit le socialisme, le communisme, l'écologisme, l'humanisme, etc. Toutes ces choses philosophiques, politique qui ne vise qu'à une chose, à faire l'unité, la réconciliation, tous unis sur on ne sait pas quoi. Dieu déclare avec solennité que cela ne marchera pas, il y a une seule pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, par qui nous avons le pardon des péchés, ça a été dit dans 1 Jean, et lui qui a été établi juge de toutes les choses. Il n'y a pas d'autre. Je voudrais conclure ce message en considérant une dernière pierre qui se détachera de la montagne. Peut-être, voyez-vous à quoi je fais allusion, nous allons lire ce passage et qui amènera la destruction de toutes les constructions et stratégies humaines qui ont voulu se prendre pour des pierres angulaires. Nous allons lire dans Daniel 2. Dans Daniel 2, vous savez que Nebuchadnezzar a fait un songe dont il ne se souvient plus, et il demande quelque chose, pas facile, même pour des magiciens expérimentés. Souvent, on va demander aux magiciens, aux devins, d'expliquer, je ne vous encourage pas à le faire, d'expliquer le songe qu'on a eu et de donner sens. Mais là, Nebuchadnezzar est plus exigeant avec ses salariés, là, ses devins professionnels. Il leur demande de lui dire le songe qu'il a eu. Un petit peu compliqué. Et en plus de donner l'interprétation, aucun n'y arrive bien sûr, il est menace de mort, et alors quelqu'un se souvient qu'il y a un prisonnier là, qui a déjà expliqué des choses, Daniel, alors on le sort et on l'amène pour qu'il explique ce songe. Alors Daniel, je vais le trouver, Daniel 2... Au verset 31, voilà, Daniel explique à Nebuchadnezzar ce qu'il a vu, et puis il va lui donner l'interprétation. Au roi, donc Daniel 2, verset 31, au roi tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Donc Daniel va donner l'explication de cette vision à Nebuchadnezzar, lui expliquant que la tête d'or, c'est lui, c'est l'empire babylonien, que la poitrine et les bras d'argent, c'est l'empire médo-perse qui va succéder à l'empire babylonien, puis le ventre et les cuisses des reins, la civilisation grecque, et enfin les jambes de fer et pieds mélangés de fer et d'argile, la civilisation romaine qui a succédé. Nous voyons que, oh, qu'il s'agisse d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile, ce sont des empires. Notez que dans la Bible, on distingue entre les royaumes, les nations et les empires. Les empires, c'est typiquement la construction humaine. C'est l'orgueil humain qui prend domination. Hein ? Dieu a voulu les nations, il a permis les nations, il n'a pas voulu les empires. Hein ? L'empire, c'est vraiment une construction humaine. Donc nous avons la succession de tous ces empires. Et il est à noter que les pieds de cette construction, de cet édifice, de cette construction humaine, fer et argile. Et on va voir, on va lire dans les versets 43-45 l'interprétation qu'en donne Daniel à partir du verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Je prends ce passage en conclusion, c'est osé, c'est Daniel, mais vous savez qu'il y a une interprétation multiple, mais on sait qu'il y a aussi ce qui se passera à la fois c'est historique, ce qui est là, mais aussi ça nous parle de tout, au niveau spirituel, de toutes les constructions humaines. Et ce fer et cette argile mélangée, je crois que ça marque bien notre civilisation, faite de haute technologie et incontestablement de l'intelligence divine qui est dans l'homme, puisque nous sommes des créatures divines. Mais aussi cette argile, certains pensent, peut faire partie de cela, qu'il y a dans ces systèmes démocratiques, mais qui cachent une indépendance avec laquelle on essaie néanmoins de diriger un peu quelque chose, qu'il y a cette fragilité. Plus personne ne veut être soumis à personne, et bien finalement, on est soumis à la technologie. Et je crois que l'Apocalypse nous dit qu'on ne pourra plus acheter ni vendre. Je crois qu'on avance très très vite dans ces eaux-là. Dans notre insoumission, voilà la fragilité des peuples, des nations où nous vivons. Il y a donc cette pierre qui se détache. On sait que c'est aussi des éléments de la venue de Jésus-Christ. Le roi reviendra et ces systèmes humains s'effondreront. Nous avons à regarder à cela, nous avons à considérer ces choses. Nous vivons dans le temps où Dieu nous a mis à vivre. Nous vivons là et c'est là que nous avons à être témoins, mais des témoins avec les yeux ouverts, des témoins qui supportent la séparation spirituelle indispensable, des témoins qui ne font pas d'alliance contre nature. Il était dit dans les prières, nous sommes héritiers du royaume, n'allons pas faire d'alliance contre nature, gardons-nous de tout cela. Cette pierre, Jésus-Christ, elle viendra de nouveau. Et nous verrons effectivement que c'est bien lui qui aura été établi pour juger toute chose. Déjà le monde est jugé, puisqu'il ne croit pas au Fils de Dieu, à sa venue, à sa grâce, à sa miséricorde. Mais c'est encore le temps de la grâce. Mais c'est encore le temps de la grâce. Frères et sœurs, je voudrais qu'on ait vraiment les yeux ouverts. Cette pierre angulaire, elle ne bougera pas. Elle ne bougera pas. On ne l'adaptera pas à notre sauce. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours grâce et miséricorde. Mais il est toujours justice, il est toujours équité. Il est toujours celui que le Père a élevé au-dessus de tout. Alors, capitulons devant lui et cachons-nous. Acceptons de vivre cette vie cachée avec Christ, la pierre angulaire dans le rocher éternel. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Seigneur, tu as commandé à ton peuple, à qui tu avais livré le pays, de renverser les idoles, les autels, tout culte rendu à un autre Dieu. Je te remercie, Seigneur, que tu nous aies laissé ta parole, que tu, dans ta grâce immense, tu sois venu la planter dans nos cœurs. Merci pour cette révélation, cette compréhension que tu nous as donnée par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous abandonnons nos raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de ta grâce, de ta toute-puissance. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux et celles qui sont venus et qui encore peut-être résistaient, bataillaient, qu'ils puissent se mettre au creux du rocher et recevoir le pardon des fautes et entrer alors en ta présence. Parce que tu es le Tout-Puissant, mais comme un enfant voit son Père Tout-Puissant, tu es notre Père aussi, Seigneur. Tu es notre Père. Cependant, tu es notre Père. Malgré nos errements, cependant, tu es notre Père. Et tu veux encore déchirer les cieux ce matin pour te révéler à nos cœurs. Seigneur, nous renonçons à te déplacer. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, te contourner, construire avec nos propres projets. Je t'abandonne tout, Seigneur. Mais venir s'aligner sur toi, Jésus-Christ. Viens encore nous enseigner par les apôtres et les prophètes. Et viens encore renouveler, Seigneur, notre connaissance de toi. Sois béni, Père. Amen.